Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À regarder l'ordo liturgique, c'est-à-dire le calendrier liturgique du mois de septembre, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est l'importance de la croix. La croix est omniprésente dans toutes les fêtes de septembre, plus que dans les autres mois sans doute, à part évidemment la fin du carême qui culmine dans la semaine sainte et les trois jours sacrés où la croix est absolument omniprésente. C'est un peu comme si l'Église, en bonne mère qu'elle est, nous disait que les vacances sont terminées, c'est-à-dire ce temps de loisir où l'on fait un peu ce qu'on veut, où l'on prend ses aises, et de manière tout à fait légitime, et parce qu'il le faut de temps en temps, c'est comme si tout cela était terminé et qu'enfin, il convenait de remettre le pied à l'étrier en se concentrant sur la croix qui est la seule condition de salut. Hors de la croix, nous ne pouvons rien faire. Il y avait hier la fête de l'exaltation de la Sainte Croix que nos frères d'Orient appellent de ce beau nom de croix glorieuse et vivifiante. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche qui prime sur cette autre très belle fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Et puis, très bientôt, à quelques jours d'écart, nous fêterons en semaine les stigmates de Saint-François et la fête de Saint-Padre Pio de Pietrelcina, que certains capucins de Morgon, qui sont pourtant assez critiques à l'égard du Nouvel Ordo et de certaines canonisations récentes, ont voulu tout de suite, dès la canonisation de Padre Pio, faire entrer dans leur calendrier liturgique, et je les comprends. Voilà donc quatre fêtes qui traitent de la croix, des stigmates, puisque vous savez que Notre-Dame des Sept Douleurs a eu le cœur stigmatisé. Elle a reçu la transfiction de son cœur, comme participation très étroite au mystère des stigmates de son fils. Bref, la volonté de la Providence, c'est que tout ce mois soit considéré, j'allais dire à l'ombre, mais je crois que le mot qui convient mieux, c'est à la lumière de la croix. Et vous allez voir que l'évangile d'aujourd'hui, du double commandement de l'amour, que je ne vais pas commenter parce qu'on l'a déjà fait il y a une semaine, n'échappe pas à cette règle, et qu'il ne se comprend bien qu'à la lumière de la croix. Ce n'est cependant pas de cet évangile que je voudrais partir, encore une fois, mais de l'évangile d'hier, l'exaltation de la Sainte Croix. Peut-être certains d'entre vous, même s'ils n'ont pas la messe quotidienne, ont ce réflexe d'aller voir dans le missel. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je prends la peine de vous relire simplement deux petites phrases de cet évangile du 14 septembre, vous l'avez dans votre missel si ça vous intéresse, 14 septembre, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Que lit-on exactement? Deux phrases. « C'est maintenant le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. » Première phrase. Et deuxième phrase. « Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Je vais essayer de commenter un peu ces deux phrases qui sont absolument cruciales pour comprendre notre belle religion, pour comprendre ce que représente la croix et pourquoi on a raison de se glorifier dans cette croix. A priori, il paraît tout à fait étrange que cet instrument de torture et de mise à mort qu'était la croix fasse l'objet d'une admiration. Parce que l'exaltation de la croix, ça veut dire la louange de la croix, ça veut dire la vénération de la croix. Et vous savez combien on fait très souvent le reproche aux chrétiens de vénérer cet outil de torture. On trouve très étrange qu'ils portent cela autour de leur cou, dans leur chambre, et on y voit, c'est clair, une preuve d'une pathologie très profonde, une espèce de névrose, ou de sadisme, ou de sadomasochisme, que sais-je. En réalité, il y a dans la vénération de la croix une posture tout à fait fondée. Pourquoi ? Parce que, certes, jusqu'à la venue de Jésus, ou plutôt jusqu'à sa mort en croix, cet outil était néfaste. Cet outil n'était qu'un objet de mort que nous aurions eu bien tort de vénérer, et les Juifs ne vénéraient pas la croix, croyez-moi. Mais à partir du Christ et à partir de sa mort en croix, alors la fatalité est comme renversée. De pourvoyeuse de mort qu'elle était, la croix devient médiatrice de vie. Ce n'est donc pas l'instrument de la croix en tant que tel que nous vénérons, qui fait du mal, qui a infligé toutes sortes de tortures, toutes sortes de souffrances aux hommes de l'époque du Christ, c'est ce qu'elle a permis de réaliser. Alors comment est-ce que la croix a pu vivifier? Comment est-ce que la croix a pu sauver? Comment se fait-il qu'on soit passé d'un instrument mortifère à un instrument vivifiant? Eh bien, je prends l'évangile de Saint Jean d'hier, je vous ai cité deux phrases tout à l'heure, et je prends cette phrase. C'est maintenant le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. C'est maintenant. Jésus, dans la même phrase, utilise deux fois cet adverbe comme pour montrer la solennité de ce qui va se passer. Ce « maintenant », ça ne désigne pas tant le jeudi saint. Vous savez que ce discours du Christ, de la fête d'exaltation de la Sainte Croix, est prononcé devant les Juifs qui venaient en pèlerinage à Pâques à Jérusalem, le jeudi saint. Et quand il dit « c'est maintenant que le monde sera jugé, c'est maintenant que Satan va être jeté dehors », il veut parler évidemment des trois jours de la Passion. Et surtout de cet instant précis qui est l'acmé de la Passion, qui est le moment le plus intense de la Passion, où le Christ en croix, pieds et poings liés, va rendre son âme à son Père. C'est à partir de ce moment précis, ce maintenant-là, que les choses se jouent. Que se passe-t-il de si important? Je fais un focus sur ce moment précis de la mort du Christ en croix. Je sais que vous y êtes habitués, mes frères. Je sais que le carême vous a donné l'occasion, les chemins de croix, et que sais-je, votre méditation quotidienne, je n'en doute pas, matin et soir, vous aura permis de pénétrer dans le mystère de la croix, mais je pense qu'on peut toujours et encore reprendre la méditation de ces choses-là. Alors de grâce, ne vous endormez pas avant la fin de ce que je dois vous dire aujourd'hui. Le Christ le dit explicitement. Que se passe-t-il en cet instant précis? Le prince de ce monde va être jeté dehors. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. En dehors de quoi, à vrai dire? Est-ce que le prince de ce monde va être jeté en dehors du monde, c'est-à-dire en dehors des réalités qui nous entourent, de cette terre, du globe terrestre, en gros, et de l'humanité? Certainement pas. On voit chaque jour que 2000 ans après, le démon est toujours là, à l'œuvre, alors on a l'impression qu'il y est plus encore que jadis. En réalité, les choses demeurent à peu près les mêmes. Le démon est toujours bien présent. Non, il sera jeté dehors, ça veut dire en dehors de chaque être humain qui voudra bien adhérer à Jésus-Christ. Croire qu'il n'est pas seulement homme, mais qu'il est le Fils de Dieu venu nous sauver. Vous voyez, ce constat est comme confirmé par Jésus lorsqu'il dit non seulement Satan va être jeté dehors, mais également le monde sera jugé. Qu'est-ce que le monde? Dans la bouche de Saint Jean, vous le savez sans doute, le monde, ça n'est pas la société qui nous entoure, les structures de l'humanité que nous trouvons déplorables, bref, des choses à l'extérieur de nous. Le monde, c'est cette partie pécamineuse de l'humanité, c'est ce non à Dieu qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et par la croix, voilà que Jésus va permettre maintenant, au moment même où il meurt sur la croix, qu'enfin le démon n'ait plus de droit sur l'humanité, que le monde n'ait plus à résider dans l'homme. Il donne concrètement les moyens à l'être humain, pourvu qu'il adhère au Christ dans la foi, de ne plus laisser place en lui au péché. C'était évidemment préparé par toute l'ancienne alliance, cette perspective-là, bien sûr. Les hommes ont toujours voulu adhérer à Dieu, faire le bien plutôt que le mal. Il faut être un peu mal fichu pour aspirer à l'inverse. Mais ils n'avaient pas les moyens de laisser régner Dieu en eux. Ils n'avaient pas les moyens d'échapper aux griffes de Satan. Voilà qu'avec la croix, Jésus non seulement leur enseigne ce qu'il faut faire, mais leur donne le moyen de faire ce qu'il faut, de faire ce qu'ils doivent. Voyez, comment est-ce que cela se peut que la croix chasse le démon qui est en moi et chasse la partie obscure et dénonce en moi cette partie pécamineuse pour que je la rejette? En réalité, je vous ai cité assez souvent cette phrase de saint Augustin que je trouve magnifique, qu'émettant notre regretté pape Benoît XVI, nous sommes devant le spectacle de la croix blessés par la flèche de ce qui est beau. C'est-à-dire que nous voyons sur la croix, nous voulons bien faire, nous voulons suivre Dieu, nous voulons aimer, chacun d'entre nous a cela dans les tripes, nous voulons aimer et être aimé. Mais nous en sommes incapables, et le miracle, le prodige de la croix, c'est qu'enfin les choses deviennent possibles. Il est possible de dire non à la haine, de dire non au mal, et de dire oui à Dieu. Comment? Notamment parce que nous sommes absolument abasourdis, pourvu que l'on soit de bonne foi, devant le spectacle qui nous est donné en croix. Qu'est-ce qui apparaît sur le visage tuméfié de Jésus et sur ce corps où pas un centimètre n'a été épargné par les fouets, par les crachats ou par les gifles de la soldatesque? Qu'est-ce qui apparaît là? Sinon, en plus, accompagné des paroles « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », sinon l'amour infini de Dieu pour nous, sa miséricorde. Nous avons dans Jésus sur la croix l'exemple de ce que nous devrions être. De ce que l'humanité, si elle restait tournée vers son Dieu, et si elle vivait en intimité avec lui, devrait faire à chaque instant. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la croix, ce n'est pas vrai. Je ne connais pas une personne de bonne foi qui soit indifférente à ce spectacle d'un homme parfaitement innocent, qu'on le croive Dieu ou homme, peu importe, en tout cas parfaitement innocent, qui a suffisamment de puissance pour pardonner à ses bourreaux et qui nous enseigne à faire de même. Je crois que là, nous avons un levier pour sortir de notre égocentrisme, pour sortir de cette espèce de clair-obscur où nous nous complaisons, mi-figue, mi-raisin, mi-péché, mi-vertu. Dans l'exemple de Jésus, lorsque nous nous considérons alors comme quelqu'un de bien, de pas trop mauvais parce que nous n'avons ni tué, ni volé, ni violé, en regardant Jésus, nous nous disons « Vraiment, je suis incapable d'aimer. » Parce que je ne suis pas capable de faire la même chose que celui qui est sur la croix. Moi, quand on me fait du mal, je rends mal pour mal. Moi, je ne suis pas capable de monter sans dire un mot, après une nuit de tourment, une matinée de tourment. Nous nous comparons au Christ et alors nous ne pouvons qu'être affectés profondément par la figure de Jésus. Et Jésus non seulement blesse notre intelligence, mais il vient également blesser notre cœur et nous rendre aptes à l'imiter. C'est ça le miracle de la croix. Vous voyez, la fatalité de ce mal imbriqué dans le bien, de cet ivraie mêlé au bon grain en nous, cette fatalité est désormais résolue. Jésus a inversé la vapeur et pourvu que l'on adhère à lui, nous sommes alors capables du meilleur. Mes frères, je voudrais simplement conclure. Non, pas conclure, parce que je vous ai dit que je parlerai un peu de l'évangile d'aujourd'hui quand même. Alors, simplement pour vous dire que, évidemment, cette croix, ce que je viens de vous décrire là, cette flèche qui nous blesse au plus profond, et qui nous permet de comprendre que nous sommes incapables d'aimer, que nous avons besoin de Jésus pour pouvoir aimer, c'est la condition sine qua non pour pouvoir vivre vraiment du double commandement que la loi et le prophète enseignaient déjà et que Jésus rappelle ici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas rêver, nous ne sommes pas capables d'aimer convenablement notre Dieu et de lui donner la première place. Humainement, cela n'est pas possible. Toutes sortes de religions s'y sont essayées et toutes échouent. Nous ne sommes pas capables d'aimer nos frères, ce n'est pas vrai. Quand bien même nous aurions un tempérament bon, patient, aimable, il n'est pas vrai que l'on est capable de s'offrir pour son frère si ce n'est Dieu qui nous en donne la force. Les martyrs, mes frères, les vrais martyrs qui pardonnent à leurs bourreaux, ils n'en existent que dans le giron de l'Église. Et pourquoi ? Parce que dans l'Église, on vit de ce mystère de la croix. J'en viens rapidement, et ce sera ma conclusion, à vous parler des agapes, pour ceux qui ne seraient pas totalement convaincus de la nécessité de prendre part à ce repas fraternel. Vous savez qu'autrefois, dans l'Église primitive, on nous relate cela dans les Actes des Apôtres, saint Paul en parle aux Corinthiens, saint Pierre en parle dans une de ses épîtres, on mêlait, ou plutôt on adjoignait à la Sainte Eucharistie, la célébration de la Sainte Cène, on y adjoignait les agapes fraternelles, vestiges de repas païens, aux repas juifs, communautaires, naturels. Et puis, vous connaissez cette dénonciation de saint Paul à la première aux Corinthiens, il fulmine contre les païens mal convertis et les juifs mal convertis qui prennent occasion de ces agapes pour s'enivrer, pour virer à la rixe entre eux et pour n'avoir aucun égard avec celui qui, à l'égard de celui qui pourtant a partagé la Sainte Eucharistie quelques instants plus tôt ou qui va la partager quelques heures plus tard. Ce n'est pourtant pas le principe même des agapes qui est condamné par saint Paul ni par saint Pierre. Ce sont les excès, les frères. C'est-à-dire se livrer à un repas comme un païen le ferait, alors que nous vivons de la même Eucharistie. Nous formons un seul corps parce que nous avons part au même pain, ce pain vivifiant qui est le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Je veux dire qu'il faut que nous fassions cette expérience régulièrement de repas que nous ne prenons pas comme des païens. Parce que lorsque nous regardons bien les choses, chaque jour en semaine, peut-être que le dimanche y fait exception, nous prenons nos repas comme des païens. Il n'y en a, il faut bien le dire, que pour nous. Nous n'avons pas vraiment de discussion très élevée. Voilà, il faut se nourrir, alors nous le faisons. Bon, il y a des exceptions, et j'en vois qui parmi vous sont dubitatifs, mais tant mieux, on a donc des saints dans nos rangs. J'en suis fort aise, et j'espère y avoir contribué un peu, que ce me soit compté. Mais voilà, la plupart du temps, nous nous cherchons, nous avons faim, nous jetons un peu sur la nourriture et sans trop d'égard pour les autres. Alors de temps à autre, lorsque nous nous retrouvons en retraite, au monastère, au couvent, que sais-je, alors là, voilà, édifiés par le comportement des religieux, des religieuses, nous prenons des espèces de mines de saints, voilà, de grenouilles de bénitier et obséquieux, nous tendons plus que nous devrions tel ou tel plat, voilà, je déteste ce genre d'ambiance. Mais voilà, c'est tellement, tout cela est affecté. Mais voilà, cela montre bien que nous ne sommes pas si habitués que cela à avoir des repas vraiment chrétiens. Je crois donc que c'est l'occasion d'un entraînement que nous propose le père Piotr tout à l'heure dans sa salle paroissiale. Et plus profondément, en fait, je voudrais vous dire simplement que je ne crois pas, et je pense que vous en êtes convaincus, que nous puissions nous satisfaire de venir à la chapelle, assister à la messe, communier, encore une fois, à ce même corps de Jésus-Christ, former les mêmes membres d'un même corps, et ensuite s'en aller sur la pointe des pieds en essayant de croiser le minimum de personnes. Parce que vraiment, celle-ci, je n'en peux pas, je ne peux pas la supporter, je n'y arriverai jamais, ou parce que je pense qu'il est plus élevé spirituellement de garder un silence religieux jusqu'à, je ne sais pas quelle heure d'ailleurs, jusqu'à vêpres peut-être, voilà, pour éviter de contrarier notre Seigneur qui est là en moi, non seulement dans mon âme, mais dans mon... Bon bref, ces considérations n'ont rien de chrétienne. Alors, faites un effort pour ceux qui seraient spontanément un peu ankylosés devant cette perspective. Jetez-vous dans le bain et je vous assure que vous serez très heureux de découvrir des frères qui, derrière leurs allures peut-être un peu rebutantes parfois, dont je suis sans doute, parce que les qualités naturelles ne sont pas là, parce que, eh bien, en réalité, parce que animés du même esprit, parce que nourris du même pain eucharistique, sont véritablement des membres du même corps et donc, vous devez vous reconnaître en eux, inévitablement. Voilà, mes frères, la perspective que je voulais vous présenter aujourd'hui, la rentrée sous le signe de la croix, avec cette lumière qui irradie, seule condition pour pouvoir vivre de la charité fraternelle, et exemple très concret, parce que notre religion est incarnée, que nous ne sommes pas de purs esprits, eh bien, l'occasion nous est donnée de vivre très concrètement de cette lumière de la croix qui irradie nos relations humaines dans les agapes fraternelles. Alors, à tout à l'heure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.